Frères et sœurs, le jour de notre baptême, nous avons été marqués sur notre front du signe de la croix. Et depuis ce jour, nous avons appris à reproduire ce geste nous-mêmes, au point qu'il fait désormais partie intégrante de notre vie. Nous traçons la croix sur notre corps lorsque nous entrons dans une église et lorsque nous entrons en prière, lorsque nous entendons proclamer l'Évangile et en d'autres occasions plus informelles. Le signe de la croix est devenu pour nous une habitude rituelle, une marque de reconnaissance. Il est aussi un appel à lever les yeux vers la croix, celle qui est présente, par exemple, dans le cœur de notre église de la Couture, écho modeste de la croix véritable, celle de Jésus lui-même, qui nous parle ainsi ce matin, « Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas, n'est pas digne de moi. » Ces mots, si nous les écoutons bien, claquent à nos oreilles à la manière d'un coup de fouet. De quelle croix nous parle-t-il? Que devons-nous en faire? Pourrait-il nous rejeter si nous peinons à la porter? Ces questions importantes et sérieuses méritent d'être approfondies et réfléchies. Et pour cela, les paroles que nous avons écoutées viennent à notre secours. Car l'appel que Jésus adresse à ses apôtres, et par extension à tous ses disciples, cet appel à porter notre croix ne survient pas incidemment. Il se trouve largement éclairé par les révélations successives que nous ont transmises les textes bibliques. Et sur notre route, nous avons ainsi croisé le prophète Élisée, dont le peuple d'Israël a conservé la mémoire avec ferveur et reconnaissance. Ayant pris la succession du prophète Élie, il vécut entre le 10e et le 9e siècle avant la naissance de Jésus. Le récit que nous recevons aujourd'hui, dans le 2e livre des Rois, illustre à merveille la vocation particulière que Dieu confie à ceux qu'il institue comme prophètes au service de son peuple. En effet, Élisée visite les personnes qui lui sont confiées et il témoigne, par sa parole autant que par ses actes, de la présence réelle et miséricordieuse de celui qui l'a envoyé, le Dieu vivant. Il prend part aux joies et aux tourments de tous ceux qu'il rencontre et il se montre soucieux de partager et, si possible, d'alléger leurs croix, en particulier celles qui sont lourdes. À cette femme qui habite le village de Sunam et qui souffre de n'avoir jamais pu donner la vie, il promet qu'elle accueillera prochainement un enfant. Le miracle proprement dit ne dépend pas de lui, mais il est témoin de la bonne nouvelle. Lorsque passe le prophète, c'est Dieu lui-même qui visite son peuple. Plus tard, nous découvrons en Jésus le prophète par excellence, le prophète véritable que ne touche aucune faille humaine. Ce prophète-là, pour autant, rencontre parfois la méfiance, si ce n'est l'hostilité en certains lieux. Mais ailleurs, il est aussi accueilli et reconnu en sa qualité de juste. Cette expérience ambivalente conduit Jésus à prévenir ses apôtres, et c'est pourquoi il les enseigne longuement, profitant de toute occasion pour forger leur conscience prophétique. En se référant au témoignage des prophètes qui ont jalonné la riche histoire de l'alliance entre Dieu et son peuple, il met l'accent sur le sens de la mission. « Qui vous accueille, m'accueille, et qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. Le disciple du Christ est d'abord un envoyé. Il n'est pas chargé de parler ni d'agir en son propre nom, mais au nom de son maître, et plus encore au nom de Dieu. Jésus d'ailleurs souligne qu'il est lui-même un envoyé, car il vient pour signifier la présence de Dieu au milieu des hommes. Dès lors, l'engagement du disciple ouvre la voie à des satisfactions et à des risques. Il peut être accueilli ou ignoré, il peut être écouté ou méprisé, il peut rencontrer le succès ou essuyer des échecs. De son côté, il peut demeurer fidèle à sa vocation ou il peut s'égarer. De ces différentes hypothèses et de toutes les autres, il sera préservé s'il renouvelle l'alliance personnelle avec le Seigneur. Jamais il ne doit s'enfermer en lui-même, ni prétendre décider sa propre trajectoire. Le disciple est un messager, un serviteur, un passeur, qui ne s'impose pas, mais qui sait se retirer pour laisser à Dieu la première place. Dans cette perspective, que vient faire la croix de laquelle nous sommes partis et vers laquelle nous revenons? La croix, instrument de violence et de souffrance, est devenue l'image saisissante des douleurs et des blessures qui affligent notre humanité. Et nous savons bien quelle croix nous avons apportée, certaines provisoires et assez légères, d'autres durables et terriblement lourdes. Celui qui ne prend pas sa croix et qui ne me suit pas n'est pas digne de moi, dit Jésus à ses apôtres. Et puis il ajoute, qui a trouvé sa vie la perdra, qui a perdu sa vie à cause de moi la gardera. La tentation nous gagne parfois de chercher à trouver notre vie par nos propres moyens, en mettant Dieu à bonne distance si besoin. Or Jésus nous encourage à ne pas craindre de perdre notre vie, c'est-à-dire sans doute d'éprouver le manque et l'insuffisance, car lui est capable et désireux de venir les combler. Le prophète, comme le disciple, sont précisément ceux qui reconnaissent leurs insuffisances et qui ne préjugent pas de leurs forces. Ils sont conscients des croix qu'ils rencontreront sans trop savoir à l'avance s'ils parviendront à les porter vraiment. Cependant, ils avancent avec confiance, car ils savent déjà que Dieu viendra au secours de leur fragilité. Chaque fois que nous traçons sur nous le signe de la croix, que nous en ayons conscience ou non, nous rappelons que Jésus lui-même a assumé toutes les blessures humaines, s'en remettant entièrement entre les mains de Dieu, qui est seul à pouvoir donner la vie. De la croix du Golgotha a jailli alors la lumière du jardin de Pâques, cette lumière qui nous éclaire encore et toujours. Amen.